Merci beaucoup, Judikaël, pour cette histoire. Alors, le texte de référence aujourd'hui se situe dans le livre de Jean, au chapitre 18, versets 33 à 38. Je vous invite à l'ouvrir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ?» répondit Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ?» répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ta nation et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu donc roi ? Reprit Pilate. Tu le dis toi-même, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. Qu'est-ce que la vérité ? Lui répondit Pilate.
Je n'oublie pas que je suis membre de votre communauté et c'est donc avec plaisir que je me trouve aujourd'hui devant vous pour partager cette parole qui nous a été lue. En fait, deux questions que Pilate pose à Jésus. Es-tu le roi des Juifs ? Qu'est-ce que la vérité ? Et si Pilate reçoit une première réponse à sa première question, dans laquelle Jésus mentionne que son royaume n'est pas de ce monde, Pilate ne reçoit pas de réponse à sa seconde question, qu'est-ce que la vérité ? D'ailleurs, Pilate ne laisse pas de temps à Jésus de lui répondre, et le récit de l'Évangile nous précise que sur ces mots, Pilate sortit de nouveau à la rencontre des Juifs. Pilate, en réalité, pose une question et puis il met un terme à cette interrogation. Cette interrogation, cette question est une fin de non-recevoir. Et même si Jésus voulait répondre à cette question, eh bien, il ne peut pas répondre puisque Pilate n'est plus devant lui, n'est plus là pour l'écouter. L'évangéliste Jean, d'ailleurs, qui nous rapporte ce récit, il retient bien le déplacement des personnes dans sa description. Pilate s'est interrogé sans chercher à gérer le problème posé par cette arrestation. Il tourne les talons et s'écarte de l'accusé en se tournant vers la portion des Juifs restée au-delà du prétoire. Qu'est-ce que la vérité ? Et cette question, chers amis, frères et sœurs, cette question sans réponse immédiate a traversé en réalité l'histoire de l'évolution du christianisme dans sa tradition avec ses multiples ramifications. Bien sûr, les philosophes classiques se sont interrogés sur cette notion. Même munis de fortes convictions, les philosophes ne sont pas là pour croire, ni pour faire croire, mais pour penser et pour faire penser les hommes. Dans de multiples disciplines, la recherche de la vérité reste en réalité une priorité. Dans le monde scientifique, il y a le désir légitime de comprendre, d'élargir la compréhension humaine. Les physiciens recherchent la vérité sur les origines de l'univers. Les physiologues recherchent la vérité sur le processus du corps humain. Les psychologues recherchent la vérité sur la complexité du mental et du cerveau. Les historiens, à leur tour, recherchent la vérité sur les événements passés qui ont façonné l'histoire. ce n'est pas dans la perspective philosophique qu'apparaît la vérité religieuse. Même dans le domaine religieux, la vérité, ou ce que l'on pense être vérité, n'a pas toujours été utilisée à bon escient. En tant que croyants, nous appartenons à une dénomination chrétienne. Nous nous rassemblons chaque semaine parce que nous sommes porteurs de croyances et nous avons des convictions. Beaucoup utilisent leurs convictions pour les présenter comme des vérités. Et ce n'est pas parce que j'appartiens à un cercle social, politique, religieux ou philosophique, ce n'est pas parce que l'on s'entretient dans ce cercle les uns et les autres des mêmes convictions, en les développant en long et en large, que ces convictions deviennent des vérités avec le temps. La répétition de nos convictions n'en fait pas des vérités pour autant. Nous pouvons répéter des concepts qui nous sont familiers et qui le deviennent à force de les reproduire avec le temps, mais ces concepts, ces convictions, ne sont pas des vérités pour autant. Lorsque nous rencontrons des croyants, des chrétiens ou des personnes qui ont d'autres convictions, ai-je le droit de dire qu'elles sont dans le faux, dans le mensonge, si leurs convictions ne sont pas mes convictions, ou si mes convictions ne sont pas plutôt leurs convictions? C'est Nietzsche qui disait que le pire ennemi de la vérité, ce n'est pas l'erreur, mais c'est l'intime conviction. On pense ainsi disposer de la vérité ou de multiples vérités, comme on dispose d'une voiture, comme on dispose de différents produits que l'on distribue pour que les autres, à leur tour, deviennent possesseurs de vérité. Et au nom de cette vérité, qu'elle soit au singulier ou au pluriel, que d'abus dans l'histoire de l'homme n'a-t-on pas commis? Anatole France affirmait: c'est la certitude qu'ils tiennent de la vérité qui rend les hommes cruels les uns vis-à-vis des autres. Dans les textes bibliques, le mot vérité ne s'applique pas à une chose, à un concept, à une croyance. Mais dans la Bible, le mot vérité s'applique à une personne, s'applique à un être vivant. Et le prophète Jérémie utilise le mot vérité pour l'attribuer à Dieu dans le chapitre 10 de Jérémie, parce que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu, le vrai. Emet, le mot hébreu, qui a été traduit par vérité. Et c'est d'ailleurs ce mot, c'est l'un des 13 attributs appliqués à Dieu. Et dans cette perspective, il n'est pas surprenant d'entendre Jésus répondre à la question de Thomas. Thomas lui pose une question: « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Et Jésus lui dit, ce sont des passages connus du chapitre 14 de Jean et au verset 5, Jésus lui dit: « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Je suis la vérité. Je suis aletheia, le mot vérité en grec, emet en hébreu. Deux mots, deux sens qui se rejoignent, deux mots qui s'appliquent à Dieu. Et pour la Bible de l'Ancien Testament, comme pour la Bible du Nouveau Testament, la vérité est une personne, elle n'a jamais été une chose, un produit, un concept. C'est une personne, c'est Dieu. L'un des 13 attributs de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et selon bien des spécialistes, Jésus-Christ est le personnage le plus connu de l'histoire universelle. Vous savez que près d'un tiers de l'humanité s'en réclame. On se réclame de sa personne, on se réclame de son engagement, on se réclame de son éthique, et beaucoup en font l'un des grands initiés qui apporte à l'humanité une meilleure compréhension, dit-on, de la divinité. Même le Coran, dans sa rédaction au 7e siècle de notre ère, même le Coran voit en Jésus l'un des grands prophètes qui ont procédé à différentes choses, mais en tout cas qui étaient aussi grands que leur prophète Mahomet. Et lorsque Jésus affirme être à la fois le chemin, la vérité et la vie, qu'est-ce qu'il veut dire? Lorsqu'il précise que personne ne va au Père que par moi, que veut-il nous dire? Si je suis au milieu de près de 2,5 milliards de chrétiens dans le monde, quel est l'enseignement de mon Église sur ce sujet? En réalité, plus nous aurons des informations sur le Christ, sur son enseignement, sur ses actions, sur son comportement, sur ses sentiments, sur ses analyses, plus nous aurons des informations sur Jésus-Christ, plus grande sera l'ampleur de la vérité. Si Jésus-Christ est la vérité, l'important est qu'il prenne finalement une place toujours plus grande, toujours plus progressive dans notre vie. Ellen White ne dit pas autre chose que ce que je suis en train de dire. Dans le premier volume des Messages choisis, qui est en réalité un volume de compilation, et que c'est avec les compilations, on peut aller dans n'importe quelle direction, mais dans ce vaste présentoire de compilation, il y a un texte qui date de 1897, d'un manuscrit. Elle dit ceci: tout ministère doit se proposer de s'effacer pour que le Christ paraisse. Exalter le Christ, telle doit être la grande préoccupation de tous ceux qui travaillent par l'enseignement et par la prédication. Un peu plus loin, dans ce même livre, elle dit: il y a de la moelle et de la graisse dans l'Évangile. Jésus est le centre vivant de toute chose. Faites une place au Christ dans chaque sermon. En réalité, c'est vrai, nous nous réunissons dans nos services de culte de l'Église adventiste qui est centrée sur Jésus-Christ. Nous nous réunissons parce que finalement, Jésus-Christ et Dieu sont précisément la vérité que chacun représente. Et aujourd'hui, l'incrédulité ou le doute sur l'existence de Dieu ne cesse de se répandre dans notre société. En Europe, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Canada, et à un moindre degré, mais toujours existant, infime, aux États-Unis. Et lorsque les gens ne se disent pas athées et qu'ils manifestent malgré tout une étincelle de croyance, ils se disent non pratiquants, sans religion. Et aujourd'hui, il existe tellement de religions, de dissidence de ces religions, de non-portée par ces dissidences ou par ces religions, ce qu'on appelle des dénominations, que bien des personnes refusent de s'engager et de prendre parti et d'adhérer. Et certaines personnes préfèrent utiliser le cocktail, selon leur goût, un cocktail religieux, un fond de christianisme que l'on identifie dans notre société inévitablement au catholicisme, parce que certaines personnes pensent qu'en dehors du catholicisme, le christianisme n'existe pas. Donc, une dose de christianisme, un zeste de bouddhisme, quelques racines, quelques graines taoïstes ou coraniques, le tout arrosé de charismatisme, parce qu'après tout, il faut canaliser ces tendances d'extravertis, on y place un soupçon de laïcité et une dose de New Age, et le tour est joué. Donc, il faut agiter avant de s'en servir, et vous avez là de quoi étancher la soif de Dieu de bien des populations dans notre société occidentale. Et si l'on interroge les uns ou les autres sur la religion, ceux qui se disent sans religion, ou ceux qui se cantonnent à ce petit syncrétisme de spiritualité, nous obtenons des réponses précises que nous pouvons classer dans quatre catégories. La première réponse, c'est que toutes les religions sont fausses, car les croyances, comme les pratiques, sont absurdes. La religion est donc une illusion, une projection de l'esprit. Et ça, c'est dans la lignée de Freud, de Karl Marx. Deuxième conception, toutes les religions sont fausses, sauf la mienne, bien sûr. Car je suis instruit dans la vérité, parce que j'appartiens à l'Église de la vérité. Et c'est une réponse courante dans certains milieux. Troisième catégorie, ma religion est vraie parce que je suis dans la vérité. C'est d'ailleurs la seule qui contient la vérité, tandis que dans les autres religions, il y a des touches de vérité, mais les autres religions n'ont pas la vérité complète. Et là, c'est une attitude qui remonte depuis très loin, qui remonte dans l'Antiquité, mais qui a pris de l'ampleur depuis Vatican II. Quatrième catégorie, toutes les religions sont vraies, parce que toutes les religions conduisent finalement au même but. Il y a plusieurs voies, plusieurs chemins pour arriver au sommet d'une montagne. Et ça, c'est la réponse moderne, suggérée par une certaine lecture de la tradition hindouiste, reprise par des théologiens à la pointe. Et cette réponse est généralement donnée par des personnes qui, elles, sont sans religion. En réalité, c'est la prétention à l'exclusivité, mais aussi à l'exclusivisme, qui rebute beaucoup de gens aujourd'hui en les empêchant de dépasser le Jésus-Christ historique et pour le recevoir finalement comme la vérité. Voici plusieurs années, un auteur même avait écrit un livre de plus de 500 pages sur les religions dans l'humanité. Et cet auteur pose la question, y a-t-il une religion meilleure qu'une autre? Et pour les départager, il propose en fait deux critères. Le premier, c'est l'amour universel, et le deuxième, c'est l'épanouissement de l'homme tout entier. Puis il passe les différentes religions au crible de ces deux paramètres. Et c'est vrai que nous sommes là en pleine subjectivité, bien sûr. Et le résultat penche très nettement en faveur de la religion qui prêche un Dieu qui aime les hommes au point de nommer son Fils unique, et aussi de donner ce Fils unique. Et le problème qui se pose alors, c'est qu'il existe en réalité une multitude de dénominations chrétiennes au sein du christianisme qui réussissent ce critère de sélection. Seulement, cet auteur qui a écrit ce livre de 500 pages ne se rend pas compte qu'au sein de ces églises, certains ont un mépris à l'égard des autres, de celles et de ceux qui n'ont pas leur croyance, et nous voilà repartis avec ce point de départ. C'est le philosophe Sénèque qui fait dire dans une de ses pièces à l'un de ses héros, « Trop souvent, dit-il, la vérité est fatale à l'imprudent qui s'obstine à la découvrir. » Fatale parce que, en réalité, il y a un risque à découvrir la vérité. Ce risque, c'est de ne plus être après comme on était avant. En tant que chrétien, qu'adventiste du septième jour, nous avons pris ce risque depuis longtemps parce que nous avons accepté, parce que nous l'avons reconnu, Jésus-Christ dans notre vie. Jésus-Christ nous donne deux autres indications sur l'aletheia. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, Jean chapitre 8 et au verset 31, Jésus donc dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » La parole de Jésus-Christ, c'est-à-dire son enseignement, porte des implications très fortes pour faire de nous des êtres libres. Et je ne sais pas si l'on mesure la portée de ces propos. Généralement, dans une religion traditionnelle, on tente d'encadrer les personnes, de les encadrer par des règles, par des dogmes, de les encadrer par des traditions. Et tout ce qui mène l'homme, finalement, à ressembler à ses frères, c'est l'uniformité de la pensée, c'est le monolithisme. Jésus s'adresse à des Juifs qui étaient tombés dans ce piège, encadrés dans une tradition judaïque. Jésus leur affirme l'idée que la vérité, l'aletheia, mais comme ils sont Juifs, ils comprennent et mettent, Jésus leur montre que la vérité libère, parce qu'elle rapproche les hommes de leur libérateur qui est Jésus-Christ. Nous croyons que Jésus est la porte pour nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Et comme le dira l'apôtre Pierre dans un de ses témoignages soulevés par le récit de Luc dans le livre des Actes, puisque c'est Luc qui rédige les Actes des apôtres, Pierre, dans son témoignage, s'exprime en disant qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Le mot « vérité », Jésus, tout comme les sources qui témoignent du Christ, sont bien sûr les évangiles et renferment l'ensemble de la vérité. Toutefois, d'autres textes sont très vite apparus dès le 1er et le 2e siècle. Beaucoup de ces textes qui sont apparus dans les deux premiers siècles ont disparu aujourd'hui et nous ne connaissons leur existence que par les références qui sont apportées par certains pères de l'Église. Quelques-uns de ces apocryphes ont été considérés par le peuple comme étant, et par les chrétiens et par les croyants, comme étant des livres inspirés. Et certains de ces livres ont donné naissance à des traditions, à des fêtes, comme la présentation de Marie au temple, ou la Sainte Anne, supposée être la mère de Marie. Et bien de ces textes ont contribué à la culture de l'art médiéval. D'autres textes sont apparus au sujet de l'enfance de Jésus, avec des récits merveilleux. Ainsi, le pseudo-évangile de Matthieu, qui montre des lions et des léopards adorer le bébé Jésus lors de sa présence en Égypte avec ses parents. Et Jésus, qui se promène, enfant, qui fait courber les palmiers, et qui recueille des palmes, des dattes qu'il offre à sa mère. Et un grand nombre de ces textes apparaît pour avoir même influencé, et sont à l'origine en tout cas de certaines religions orientales. Et très vite, dans l'histoire, on a dénaturé Aletheia, incarnée par Jésus. Le rôle de l'Église, le rôle de toutes les Églises, le rôle du christianisme, le rôle de la véritable Église est donc de veiller au véritable visage, à la véritable nature de la vérité des récits évangéliques, la vérité de l'enseignement du Christ, la vérité du témoignage et de l'analyse qui est faite par les apôtres, les plus proches collaborateurs du Christ. Et l'apôtre Paul n'a pas hésité à souligner, à rappeler au jeune Timothée que l'Église de Dieu, du Dieu vivant, est la colonne et l'appui de la vérité. Les premiers chrétiens ont eu écho des fortes paroles de leur maître et de son assurance face au préfet romain Pilate. Et l'apôtre Paul en parle dans sa première lettre à Timothée, au chapitre 6, en précisant que Jésus-Christ a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. Ce que Pilate n'a pas découvert, nous l'avons découvert, puisque nous sommes ici, chaque semaine. Nous connaissons le chemin, nous expérimentons la vérité et nous aspirons à la vie éternelle. En réalité, trois dimensions que nous sommes invités, appelés à partager constamment autour de nous. Amen.